Mesdames et messieurs, je vous re-souhaite la bienvenue au nom de la MLG, l'Association pour une maison de la littérature à Genève. Je remercie une nouvelle fois Michel Vinavert de nous faire l'amitié d'être parmi nous ce soir pour une longue soirée de lecture puis de débat. On l'a vu et entendu tout à l'heure sur l'écran et on va avoir le privilège de l'entendre lire un autre texte à la fois très semblable et très différent. Alors, je ne vais pas prendre trop de temps pour le présenter. Je pourrais presque céder à la facilité de dire « on ne présente plus Michel Vinavert », mais c'est peut-être un tout petit peu trop facile. Donc, deux, trois mots quand même pour rappeler des éléments qui sont aussi bien, me semble-t-il, des sujets de discussion, de questions peut-être pour la suite. Je lui poserai après sa lecture deux, trois questions, mais vous pourrez évidemment poser vous aussi. Alors, rappeler que Michel Vinavert est d'origine russe, mais qu'il est né en France. Michel Vinavert, ou plutôt Michel Grimbert, est déjà là, la question est intéressante, puisque Michel Grimbert va devenir Michel Vinavert au moment où il va devenir écrivain, en prenant le nom de sa mère. La volonté de devenir écrivain, il nous le précisera, était très précoce, et en même temps, il est devenu beaucoup d'autres choses qu'écrivain. C'est un des mystères de Michel. Sa formation a été une formation littéraire, mais en même temps, curieusement peut-être, pas curieusement pour des raisons tristement historiques, à 14 ans, sa famille déménage aux États-Unis et sa formation littéraire va être largement américaine. Il nous en parlera peut-être un peu. Et il va revenir finalement en France à l'occasion de la publication de ses romans. Enfin, en tout cas, c'est à ce moment-là qu'il va revenir un peu plus tôt, mais c'est peut-être à ce moment-là qu'il va redevenir complètement français. Deux romans publiés chez Gallimard en 50 et 51, grâce au soutien d'Albert Camus. Cette œuvre, là aussi, va se dédoubler dans la mesure où le théâtre va peu à peu prendre le pas, ou peu à peu, ou peut-être brusquement. Si je dis peu à peu, c'est parce que les romans ont quand même déjà une teinte très largement polyphonique, et lorsqu'il va reprendre un de ses romans pour faire une pièce de théâtre, il va pouvoir reprendre quantité de choses sans les modifier finalement énormément. Je veux parler de L'Objecteur qui était paru en 1951. Sa vie professionnelle, je le laissais entendre tout à l'heure, a été très largement double, puisque assez rapidement, il se présente pour un emploi dans le commerce, qui va le mener jusqu'aux plus hautes responsabilités, dans une maison connue qui vend des lames de rasoir. Et cette vie professionnelle sera une des raisons, je crois, d'une œuvre qui procède un peu par étapes, des étapes de grande productivité, des étapes de silence, on va dire. Les reprises, je crois qu'on peut l'appeler comme ça, les reprises après des moments de silence vont avoir lieu comme par hasard sur des moments de jonction entre la vie professionnelle et cette vie professionnelle chez Gillette, j'ai lâché le nom, et son écriture, puisque Par-dessus bord, qui intervient après un grand silence en 1972, met en scène justement la vie commerciale dans une grande entreprise, dans une fabrique de papier de toilette. Les choses sont déplacées, mais pas tant déplacées que cela, puisqu'on y trouve un personnage, Passemar, qui est une sorte de double un peu burlesque de l'auteur. Et il avait inventé là aussi peut-être le théâtre en partie autobiographique, l'autoportrait au sein de cette pièce fleuve, puisqu'elle dure 7 ou 8 heures quand elle est interprétée intégralement. Michel Vinavert a écrit des versions dites brèves et ultra brèves, mais l'ultra brève dure encore 3h30, hein, quelque chose comme ça. Voilà. Donc vous voyez que tout est relatif. Je vais vraiment vite pour donner la parole à Michel Vunavert le plus rapidement possible, mais je mentionne la deuxième pièce à laquelle je pensais pour ces moments de reprise, après un certain silence quand même, en 1998 ou 1998. La pièce King met en scène le fondateur de cette maison pour laquelle il a travaillé. Donc, de nouveau, c'est un moment de jonction fort entre sa vie commerciale et sa vie d'écrivain qui lui permet de repartir. Sur cette période qui s'ouvre là, on peut aussi mentionner, évidemment, il faut mentionner une sorte de troisième carrière, il y en a peut-être encore d'autres que j'oublie, celle de Michel Vunavert, professeur d'université, qui dirige aussi la collection Réplique, qui élabore une méthode de micro-analyse de texte, etc., qui passe à des réflexions peut-être plus théoriques, mais en même temps tout à fait pratiques, concernant la lecture du texte dramatique. D'ailleurs, cette lecture m'amène aussi à repréciser un rapport problématique, dans le bon sens du terme, avec la réalité de la scène. Michel dit ne pas voir, mais plutôt entendre ces personnages. Et les rapports n'ont pas toujours été faciles avec les metteurs en scène. Une fameuse formule qui le fait traiter les mises en scène de mise en trop, lorsqu'elles ne lui conviennent pas tout à fait. Et lui-même hésite à collaborer ou à s'approcher du travail qui concerne le passage à la scène de ses propres textes, mais pour y céder quand même à plusieurs reprises. Et la dernière, toute récente, pas des moindres, puisque c'était la mise en scène de L'Ordinaire à la Comédie-Française en 2009. Donc, pour quelqu'un qui avait quelques réticences envers la scène, c'est particulièrement rattrapé, mais peut-être aurons-nous l'occasion d'en parler davantage. Deux mots peut-être sur des thématiques, mais vous les avez devinées. Hein. Les thématiques fortes qui traversent son théâtre, eh bien, c'est justement la collision entre le monde professionnel et le monde privé, le familial et le professionnel, le privé et le public, qui permettent des effets de résonance considérables. Des mécanismes sociaux, deux grands mécanismes en tout cas évidemment complémentaires d'adhésion et d'exclusion d'un individu à l'intérieur d'un groupe social, et les groupes sociaux en l'occurrence peuvent être très variés. Et puis une écriture dont on va reparler, mais dont vous avez eu un bel échantillon tout à l'heure, donc vous aurez compris évidemment qu'il part d'éléments du réel, qui part du discontinu, du tout venant du langage qu'on trouve dans la réalité, pour aboutir à quelque chose d'un peu plus continu et peut-être d'un peu plus pourvu de sens, encore que là, les choses restent toujours extrêmement ouvertes avec Michel Vunavert, qui est à la fois un écrivain très engagé, mais qui laisse toujours le sens ouvert, dans la mesure où cette continuité qu'il fabrique de sa plume est toujours une continuité ouverte et problématique, et qui demande une implication forte du lecteur ou du spectateur ou du metteur en scène pour dégager finalement la signification, et je crois qu'il ne faut surtout pas dire le message, parce que Michel Vunavert tient à ce que ce terme au moins reste au pluriel. Nous avons le privilège, et je la resalue, d'avoir Anne-Marie Lazzarini, la metteuse en scène ou metteur en scène de Portrait d'une femme à la Comédie ce soir, pendant toute cette période. Nous avions convenu avec la Comédie qu'on ne parlerait pas trop de Portrait d'une femme pour ne pas empiéter sur la thématique du brunch qui a lieu dimanche, faire aussi un peu de publicité pour cet autre événement. Mais là, en l'occurrence, étant donné votre présence, peut-être qu'on dérogera un tout petit peu à cette règle s'il y a des questions qui portent autour de cela. Je pense à Portrait d'une femme, parce que Portrait d'une femme, lui aussi, part comme ça de coupures du monde qui étaient parues dans le monde lors d'un procès que relate à sa manière la pièce, procès qui avait lieu en 1953, c'est ça ? Voilà. Donc vous voyez de nouveau un procédé, enfin il ne faudrait pas utiliser le mot de procédé, une manière de faire qui emprunte à des éléments du réel, à des éléments textuels du réel pour en faire œuvre. Et en faire œuvre musicale, vous l'avez entendu tout à l'heure assez largement. Voilà, alors je remets d'autres questions au petit débat que nous aurons ensuite avec Michel Vinavert, auquel vous pourrez évidemment participer. Et puis je lui donne la parole pour la lecture de Dissident, il va sans dire, texte qui a été écrit en 1976, je crois, mais publié en 1978. Nous avons ici même aussi, que je le salue, mais je ne sais plus où il est, Pierre Dubet, qui a joué le rôle masculin dans une mise en scène de Raymond Brown en 79. Voilà. Bon. Donc aussi un interlocuteur privilégié pour nous ce soir. Michel Vinavert, merci beaucoup.
Et Pierre me rappelait que cette pièce qui comporte deux personnages, il l'a interprétée avec Jeanne Fiedrich, ici à Genève. C'est une pièce en 12 morceaux qui a été créée à Paris en 78 et un an après, donc, a été reprise ici à Genève dans la mise en scène de Raymond Brown. 1. Hélène, elles sont dans la poche de mon manteau. Philippe, non. Ni sur le meuble. Hélène, tu es gentil. Philippe, parce que tu l'as laissé en double fil. Hélène, alors je les ai peut-être oubliées sur la voiture. Philippe, un jour on va te la voler. Hélène, tu ne t'es pas présenté. Philippe, mais si. Hélène, je n'ai pas eu le courage, j'ai tourné je ne sais pas combien de fois autour du bloc d'immeubles, ça devient de plus en plus difficile. Philippe, je vais aller te la garer. Encore un an et tu pourras passer ton permis. Oui. C'est un nouveau chandail ? Ouais. Je me demande d'où vient l'argent. On se les refile, tu sais. Hélène, mais quelqu'un l'a acheté. Philippe, les affaires circulent. Hélène, mais c'est à qui ? Philippe, toi et ton sens de la propriété, Hélène, les choses appartiennent à quelqu'un. Philippe sort. Hélène prépare une soupe en sachet. Philippe entre. Hélène, je me demande si tu me dis la vérité. Philippe, je devais te crever, ça arrive, j'ai pas entendu. Hélène, je t'avais mis le réveil pour 8 heures. Philippe, et tu m'avais préparé le café. Hélène, mais c'est que tu t'en moques. Moi, ça me sidère. Philippe, combien de fois déjà je me suis présenté ? Pour quel résultat ? Hélène, c'est bon ? Velouté de lentilles, nouvelle variété. Je m'étais dit qu'on allait l'essayer. Ça te plaît ? Oui. Il suffit d'une fois, Philippe, et ça peut être la bonne. Ton père a répondu à une annonce et 18 ans après, il y est encore. Il y a fait son chemin. Bonsoir, maman. Où vas-tu ? Noir. 2. Hélène. Ça me fait mal de te voir affalé là parmi tes disques, tu sais, ne pas avoir un but dans la vie, Philippe. Je veux combattre pour la veuve et l'orphelin. Je veux caresser tes cheveux. Non, laisse-moi faire. Sérieusement, Philippe. On peut manquer de tout, mais si on s'est fixé un but... J'ai un but, mais il est inaccessible. Hélène, je voudrais, Philippe, comme ça je suis sûr de toujours l'avoir, Hélène, et de n'arriver à rien. Philippe, moi je voudrais 2 choses, que tu ne sois plus seule, maman, Hélène, avec toi je ne suis pas seule, que tu te trouves un chouette mec et que tu me laisses, quoi, tu sais bien, je te pèse, ce n'est pas ça. Il y a longtemps que je n'essaye plus de t'influencer, que tu me laisses être. Hélène, si seulement tu te donnais un peu de peine, le travail ne court pas les rues, raison de plus. Ça m'est pénible de te voir qui ne cherche que du bout des doigts, au lieu de prendre ça à bras le corps. À ta place, Philippe, tu n'es pas à ma place. Hélène, tu as fait faux bond à ton père encore une fois, et il avait retenu une table. Philippe, Il a fait retenir une table par sa secrétaire dans un de ces bons bistrots de quartier dont il tient la liste à jour dans son petit carnet. J'y ai plus pensé. Hélène. Il m'a appelé cet après-midi à mon bureau. Il t'a attendu. Lui qui est si précis, il pense que c'est moi qui t'empêche de le voir. Ça m'est agréable. Philippe, je n'ai rien à lui dire. Hélène, c'est ton père. Philippe. Et puis ? Hélène, tu as fini ? Philippe. Il devrait comprendre à la longue. Hélène. Pour lui, un rendez-vous, c'est un rendez-vous. Philippe. Et un fils, c'est un fils. Hélène. Tu me ferais tellement plaisir si tu rangeais tous ces disques qui prennent la poussière sur le tapis. Noir. Trois. Philippe. T'as l'air fatigué ce soir. Hélène. Mais non, pas plus que d'habitude. Philippe. Tes cheveux. L'habitude, ça fatigue de plus en plus. Hélène. Il s'est mis à pleuvoir et je n'avais pas mon parapluie. Philippe. Alors t'as fait des statistiques ? Hélène commença. Philippe. Comme d'habitude. Hélène. Eh bien oui. Philippe. Ça sert à quoi, une employée aux statistiques ? On analyse les factures par secteur de représentants. Qu'est-ce qu'on en fait ? Ça permet de suivre l'évolution des ventes en plus et en moins, suivant les secteurs, par rapport à l'année précédente, par rapport au budget. Bientôt, ils vont mécaniser. C'est-à-dire, ça passera sur ordinateur. Pourquoi ? Pour que ça aille plus vite et que ça coûte moins cher. Pourquoi tu me déballes tout ton truc ? Parce que tu me demandes. Et moi, tu ne me demandes rien ? Toi qui poses jamais de questions ? Tu remarques rien ? Qu'est-ce qu'il y a ? Tu me fais peur. Parce que je te pose des questions ? Hélène, il fallait lui dire quelque chose à ton père, alors c'est arrangé, demain soir, il t'emmène au cinéma. Voir quoi ? Tu sais qu'il revient d'une longue tournée en Afrique. N'oublie pas de lui demander comment il va, tous ses déplacements, avec son diabète. Demain soir, je ne suis pas libre. Ah, écoute, tais-toi. Et regarde. Mais, Philippe, c'est une surprise. Eh bien, ouvre, Hélène. Des truffes au chocolat, mais tu es fou. Philippe, c'est pas ce que t'aimes le plus au monde. Hélène, si. Philippe, la dernière fois qu'il m'a emmené au cinéma, c'était un film sur le Chili. Il veut à tout prix me convertir à ses idées progressistes. Moi, j'ai rien à foutre du Chili. Demain, j'entre à l'essai en équipe de nuit. J'ai trouvé du travail. Noir. 4. Hélène, je revis maintenant. Je peux te le dire, c'est vrai. Je me faisais du mauvais sens, ce n'est pas tellement l'argent, mais l'oisiveté, c'est terrible pour un jeune, et de te voir qui t'inquiétait. Philippe, tu trouvais que je m'inquiétais pas assez ? Faut savoir, qu'est-ce que tu veux de moi ? Mais rien, dis pas n'importe quoi. Hélène, pourquoi me crier dessus ? Tout va si bien, je suis si heureuse. Philippe, tu vois que le bon côté des choses, autant dire que tu vois rien du tout. Hélène, j'essaie. Tu sais que la R4 est irréparable. Ou plutôt, il y en a pour 4000 francs et le garagiste m'a dit qu'elle n'en vaut pas autant. Il m'en a offert 250, je les ai pris. Et pour commencer à dépenser cette fortune, j'ai acheté un gros saucisson. Philippe, ça va nous durer des siècles. Hélène, une rosette de lion. Philippe, et si je m'en vais ? Hélène, quand ? Philippe, l'année prochaine. Hélène, où ? Philippe. On est en décembre. Hélène, tu viens de trouver du travail. Philippe, je voudrais trouver une vallée. Une vallée ? Fermée des deux bouts. Hélène, moi qui n'ai jamais eu un accident, d'ailleurs je ne crois pas aux accidents, et puis tu vois, je suis saine et sauve, le médecin a dit que personne n'est à l'abri d'un étourdissement. J'ai acheté aussi une bouteille de vin. Le flic était tout étonné. Parfois, je me demande où tu vas tirer tes idées, au lieu de t'intéresser... À quoi ? Mais à mille choses, à tout ce qui t'entoure. Mais j'ai décidé de ne pas la remplacer. Non, on ne trouve pas à se garer. Et le métro, finalement, c'est aussi rapide. Et puis, Philippe, tu aimes tant conduire. Hélène, avec ton argent, quand on aura économisé et économisé, à l'hôpital, le médecin n'en revenait pas. Même pas une côte brisée, pas une dent cassée. Alors que le choc, mais pas un souvenir non plus. Je ne saurais jamais ce qui m'est arrivé. Philippe, avec mon argent, Hélène, tu nous en rachèteras une. Philippe, silencieuse, noire. Cinq. Philippe, c'était Simon ? Hélène, tes copains ne disent pas leur nom, ils entrent et ils sortent, ils ne me disent pas bonjour non plus. C'était qui alors ? Je leur ouvre, ils ne me voient pas. Tu n'es pas exactement accueillante avec eux. Hélène, je t'ai dit ce que je pense de leur façon d'être. On existe. Philippe, il a dit que je pouvais passer chez Simon et c'est tout. Hélène, je ne comprends pas ce que tu leur trouves à ces garçons. Philippe, arrête. Hélène, il a dit chez Simon ou si Simon n'est pas là chez Patricia. Philippe, Patricia ? Hélène, je crois qu'il a dit Patricia, et il a dit avant midi. Philippe, j'y vais. Non, Philippe, d'abord tu vas déjeuner, nous allons déjeuner. Je t'attendais, tu sais, regarde, et avant de te mettre à table, écoute, quoi ? Enlève ta canadienne, tes gants, tes mains, tu peux les laver. J'ai surtout envie de dormir. Alors tu n'iras pas ? Je m'en fous. Tu as été confirmé, comment ? Ça fait un mois aujourd'hui que tu es entré. Ah oui. Hélène, alors ? Philippe, tiens, c'est ma paye. Hélène, oh. Philippe, prends. Hélène, je ne t'ai rien demandé. Ça fait un drôle d'effet, hein ? Hélène, maintenant que tu tiens le bon goût, j'ai le droit de rêver, n'est-ce pas ? J'aimerais que tu te trouves un travail un peu moins abrutissant, où tu puisses faire travailler ta tête un petit peu. Philippe, pas si vite. Hélène, toute la vie, tu mangeras la salade avec les doigts. Tu as toujours fait les meilleures rédactions de ta classe. Philippe, cette robe, on l'a assez vue. Hélène, mais tu ne me regardes jamais. Achète-toi une autre robe. Philippe, fais-toi belle, mes copains te regarderont. Ah oui ? Philippe, dans le temps, tu avais une robe blanche. Tu devrais aller chez le coiffeur, qu'il te fasse une frange et qu'il te coupe tout ça. On ne voit pas ton visage, ton cou. Hélène, peut-être que je me cache, mais toi, Philippe, montre-toi. Hélène, tu as beaucoup maigri. Tes yeux, tes arcades sourcilières, tes pommettes. Philippe, jamais je me suis mieux senti. Papa m'a dit que j'étais un beau gaillard, à son image. Hélène, ah, il voulait te parler. Philippe, il m'a parlé. Alors ? Il m'a dit qu'il y avait de la place dans son affaire pour un jeune gaillard plein d'avenir, comme moi. Comment est-ce que tu as pu ? Hélène, quoi ? Philippe, approcher un mec pareil. Hélène, tu me fais mal. Philippe, je veux savoir. Noir. Hélène, tu sais que grand-mère n'allait pas bien du tout. Philippe, elle est morte ? Hélène, elle n'en pouvait plus. Philippe, je ne travaille pas cette nuit, on s'est mis en grève, je t'emmène bouffer dehors et puis on va au cinéma. Hélène, tu ne m'as pas entendu, je te dis. Tu choisis bien ton jour. Philippe, grand-mère est morte. Hélène, quand même, oui. Philippe, mais pas nous. Hélène, sais-tu ce que tu dis ? Philippe, vous êtes belle, madame, aujourd'hui. Hélène, figure-toi que j'ai pleuré. Philippe, on peut quand même aller au ciné ? Hélène, je ne l'aimais pas. On croit qu'on aime plus sa mère. Non, ce soir, je crois que je veux, c'est stupide, rester ici, me recueillir. C'est stupide. Vous êtes très belle. Vous êtes drôle, vous, monsieur. Il y a un film super au coin de la rue. Tu ne m'as jamais invité au cinéma. Je veux sortir avec une chouette dame. Il est temps que tu te trouves une petite. Et toi, un monsieur, bien sous tous les rapports. Hélène, quelquefois, je me demande si tu es sérieux en disant ça et où tu en es avec les filles. Philippe, ou bien si je ne suis pas un homosexuel. Hélène, tu ne me dis jamais rien. Philippe, je te dis tant de choses tout le temps. Hélène, oui, à moi de démêler. Philippe, je te dis de te trouver un mec, il y a des agences qui utilisent un ordinateur. Hélène, je sais, tout finit par passer sur ordinateur. Ils viennent de l'installer, le nôtre, dans un local air conditionné. Philippe, trouve-toi un chouette d'opérateur. Hélène, peut-être. Pendant les 3 mois qui viennent, ils vont roder le programme. On va continuer à sortir les statistiques manuellement. En parallèle, la machine va sortir les mêmes chiffres. C'est pour vérifier si tout fonctionne comme il faut. Après les 3 mois, il n'y aura plus que le programme d'ordinateur. Philippe, donc ? Hélène, heureusement, tu as ton emploi. Philippe, oui, heureusement. Hélène, qu'est-ce qui te fait rire ? Philippe, vive les presses de chez Citroën. Noir. Sept. Hélène, si je me posais des questions, oui, bien sûr, tu ne m'as pas donné l'habitude de te voir disparaître pendant plusieurs jours sans prévenir. Philippe, non, je n'ai pas faim, je crois que je vais aller dormir. Hélène, mais avec quel copain ? Philippe, le contremaître a une maison à la campagne, lui et 2 autres mecs m'ont dit, viens, j'y suis allé, on a fait un peu la bringue. La grève, ça permet de connaître les gens, on ne se parle pas tellement. On ne peut pas se parler d'ailleurs, le bruit est tel. Et quand la sirène gueule, on se barre tous sans un mot. Le lendemain, on se retrouve sur les machines. Hélène, je croyais que vous occupiez l'usine. Oui, par roulement. Mais vous êtes resté 3 jours à la campagne ? Oui, tu sais, moi, cette grève, je ne sais pas. Les Algériens l'ont prise en main, ça dégénère. Pourquoi vous la faites ? Au départ, c'était contre les cadences et le nombre de décibels, et puis le contremaître a une fermette dans la Beauce. Ses parents étaient cultivateurs. Hélène, j'ai reçu une lettre de ton père, je te la lis. Ma chère Hélène, je t'écris ce mot pour te dire que je virerai à ton compte, chèque postal, tous les mois, la somme de 450 francs au lieu de 375 francs comme jusqu'à présent. Comme il se doit, j'augmente tes mensualités étant donné que j'ai reçu une promotion. Tu sais que sans avoir le titre, j'assurais les fonctions de directeur de l'exportation. Maintenant, ils m'ont nommé directeur de l'exportation en titre et ont revu mon salaire en conséquence. Il n'est que normal que Philippe et toi vous en profitiez. Je vais bien et j'espère que toi pareillement. Philippe, comme il se doit. Hélène, il utilise souvent cette expression. Philippe, il n'est que normal. Hélène, ton père a le culte de la correction. Philippe, il me disait approche pendant qu'il me tapait dessus. Hélène, tu ne pleurais jamais. Philippe, j'étais occupé à lui ouvrir la tête et à pétrir sa cervelle avec mes doigts. Je ne sentais pas les coups du tout. Hélène, que je suis bête. Instinctivement, je cherchais les clés de la voiture. Tu sors ? Je ne sais plus où j'ai la tête, j'ai oublié ce que j'allais faire. Acheter du pain ? Pas besoin de la voiture pour aller chercher du pain. Tu n'as jamais besoin d'un homme ? Tu es un homme, presque, déjà. Dans un lit, c'est autre chose. Philippe, alors tu sors ? Hélène, ça me revient, il faut que j'aille rendre visite à Madame Tossu, elle est à l'hôpital. Philippe, qu'est-ce qu'elle a ? Hélène, un cancer au cerveau, elle est perdue. Philippe, pour qui ? Noir. Huit. Philippe. Et tu vas te chercher un autre boulot ? Hélène, pas tout de suite. Il y a tant de choses que je voudrais faire depuis si longtemps et que je remets d'année en année. Et ces disques, Philippe, je vais les ranger. Hélène, tant de choses que je ne sais pas trop quoi. Je vais pouvoir réaliser mon rêve. 6 mois de liberté. Oh, tu ne peux pas imaginer. Philippe, tu supporteras de rester sans travailler ? Je retravaillerai. Mais d'abord, de longues, longues vacances. Je me promènerai. J'irai dans les bibliothèques. Tu sais quel est mon grand regret. Je ne te vois jamais avec un livre. Ma tête est déjà trop pleine. De quoi ? J'ai mon livre dans la tête, complet. Comment s'appelle-t-il ? Pas de titre. Hélène, écris-le. Philippe, je veux le vivre. Hélène, qu'est-ce que ça veut dire, Philippe ? Si tu comprends pas, Hélène, il ne suffit pas de rêvasser. Quand tu étais petit, tu écrivais sans arrêt. Je suis sûr que si tu avais persévéré, arrête. Ta vie, tu la laisses glisser entre tes doigts. Saisis-la, fais-en quelque chose. Philippe, je vais te la montrer, ma vie. Regarde. Je regarde. La pièce arrive devant toi sur la chaîne. Oui, je la pose comme ça. Je l'introduis. Oui, et puis, il y a une pédale qu'on actionne du pied. La presse descend. Plum, je retire la chaîne. Pardon, je retire la pièce. La chaîne amène une autre pièce. Et puis, et plum. Et c'est ta vie ? Tu t'es acheté la robe blanche. Hier, je n'ai pas passé l'aspirateur. Tu sais, je sens que je change. Philippe, tu t'es acheté la robe blanche. Hélène, cette paire de sabots aussi. Noir. Philippe, tu pleures, écoute, c'est pas grave. Je peux leur dire de plus venir. Hélène, chez nous, tes amis sont chez eux, je t'ai déjà dit. Philippe, on peut s'installer ailleurs. Hélène, comment on ? Philippe, je ne sais pas moi. Hélène, ils sont quatre dans ta chambre, dont une fille, je leur ai fait à manger, ils me l'ont demandé, ils me disent bonjour maintenant. Je lui ai fait la remarque l'autre jour au Grand Bouclet. Philippe, Simon, Hélène, mais eux ne travaillent pas. Philippe, ils n'ont pas tous la chance que Jésus. Hélène, ils sont deux à dormir sur ton lit depuis 7 heures, ils avaient l'air éreintés. Tu es une chouette de mère. Mais est-ce que ce sont des amis ? Comment ça ? Oui, ils ne te ressemblent pas. Je vais te dire, je ne suis pas contente qu'ils aient une clé de la maison. Je vais t'expliquer. Quand je suis rentrée du bureau, je les ai trouvés là, installés. Ah oui, j'ai vu papa, il m'a fait une grande leçon de socialisme. Il m'a raconté qu'il a fait ta connaissance par le socialisme. Hélène, il aimerait tant te faire partager ses idées. Tu y crois encore au socialisme ? Hélène, avant j'ai milité, je suis pour la lutte contre les privilèges. Lesquels ? Le pouvoir absolu des patrons. Philippe, et lui, c'est pas un patron qui commande ? Pendant qu'il parlait, j'entendais rien, je regardais son nez, je peux plus le voir, je le verrai plus. Hélène, tu ne peux pas mettre en doute sa sincérité. Il t'a abandonné. Ça ne marchait plus, je suis plus heureuse maintenant. C'est dur, mais j'aime mon indépendance. Mais tu l'aimes encore. Ça n'a rien à voir. Tu ne m'as pas retrouvé tes copains ? Philippe, Madame Tossu est passée. Je lui ai dit que je la croyais à l'hôpital, elle a ouvert de grands yeux. Hélène, elle est sortie. Philippe, elle n'y est jamais été. Elle a dit qu'elle était dans le quartier, alors elle en profitait pour t'apporter la dentelle. Elle a dit que tu la pailleras la prochaine fois et qu'elle attend de très belles couleurs. Elle te les montrera la prochaine fois. Qu'est-ce que tu as été te faire faire dans cet hôpital ? Qu'est-ce que tu vas en faire de cette dentelle ? Hélène, une nappe pour nos dimanches. Noir. 10. Philippe, ça a été un dîner sinistre. Hélène, parce que tu faisais la gueule, mais comment l'as-tu trouvé ? Philippe, débile. Hélène, moi, il me plaît bien, il correspond bien à ce que j'avais demandé. Philippe, cette façon de tout inspecter comme s'il faisait l'inventaire de ce qui déjà lui appartient. Hélène, il aime les idées, les livres, les promenades à pied à la campagne. Philippe, il n'a pas ta classe, tu le domineras et puis tu t'ennuieras plus que quand tu es seule. Hélène, alors peut-être j'ai mal décrit à l'ordinateur ce qu'il me fallait. Philippe, et tu es arrivé plus d'une demi-heure en retard. Hélène, sans le savoir, j'ai peut-être fait exprès. Philippe, J'ai dû lui tenir la jambe à ce tonton. Hélène, ouais, exprès. Philippe, je m'inquiétais. Pour moi ? Après cet accident que tu as eu ? Mais je n'ai plus de voiture. Mais ces étourdissements ? J'ai toujours été distraite. Je sais ce que tu me caches et tu vas te marier avec ça. Pauvre idiot, tu ne me crois pas. C'est cette histoire de Mme Tossu. Tu sais, je ne vois jamais rien sur cette grève. Ni dans les journaux, ni aux actualités. Philippe, Ce ne sont que deux ateliers, ça ne suffit pas pour arrêter l'usine, je peux t'assurer. Hélène, mais j'ai aussi téléphoné chez Citroën. Philippe, ils t'ont dit n'importe quoi. Hélène, je ne sais pas, Philippe, tu ne manges plus. C'est poche sous les yeux et ton père a téléphoné. Il voulait savoir pourquoi tu lui as demandé de l'argent. Philippe, il est plein aux as, toi tu es au chômage. Hélène, mais qu'est-ce qui nous manque? Je touche mes 90%. Philippe, c'est entre lui et moi. Hélène, après tout ce que tu as dit de lui? Oui, je le vomis. Hélène, c'est cohérent. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu es fou? Tu ne vas pas me frapper? Noir. Onze. Philippe, tu reviens de l'hôpital? Hélène, comment faire pour te faire croire que je n'ai rien? Tu imagines et ça commence à m'agacer. Quand je suis rentrée, ta chambre était pleine. De quoi? De tes copains couchés par terre et une fille qui avait l'air de dormir debout. Patricia, tu es amoureux d'elle? Je l'adore. Elle est très belle. Mais pourquoi une seule fille avec tous ces garçons? Ils ont leurs copines, ils ne les amènent pas. Mais que viennent-ils tous faire ici? On discute. Puisque tu le connais, ce contremaître, tu pourrais lui parler, tu pourrais lui demander de te faire muter dans un autre atelier. Oui, c'est une bonne idée. Maintenant que cette grève est finie. Oui. Il y a des travaux moins abrutissants, toi qui as une bonne tête. Oui. Si tu t'en donnais la peine. Il y a mille façons de se faire valoir. Simplement, il faut, Philippe, un but dans la vie. Il reste encore un peu de ce saucisson. Hélène, juste un dernier petit bout. Philippe, ça aura été un bon achat. Hélène, ce livre, tu devrais essayer de l'écrire. Philippe, et il fera sûrement un gros tirage. Tu te sortiras la nappe de dentelle. Je te paierai une voiture de sport. Papa viendra avec le Parti Socialiste. J'inviterai mon contremaître. Il y aura des truffes au chocolat et la télé. Il y aura la télé. Hélène, je rachèterai une rosette de Lyon. Philippe, et tous tes fiancés. Hélène, on les mettra en randonnion. Philippe, Patricia dansera. Patricia est une super danseuse. Hélène, l'argent. Philippe. Quoi? Hélène, tu sais bien. Non. Hélène, il n'y est plus. Philippe, j'ai oublié de te dire. Hélène, qu'est-ce que tu en as fait? Philippe, je te le rendrai. Hélène, tu l'as pris. Philippe, c'est pas grave. Hélène, mes économies, tu as tout pris. Philippe, un copain qui a des problèmes. Hélène, sans me dire. Philippe, tu l'auras avant la fin du mois. Noir. 12. Dernier tableau. Hélène. Oui, je dormais. Philippe. Pardon de te réveiller. Hélène. 5h du matin, je peux te faire quelque chose à manger? Philippe, je n'ai pas faim. Hélène, tu viens de loin? Philippe, c'est Simon qui nous a donné. Hélène. Tu n'as plus de joues, elles ont fondu, tes yeux se sont creusés. Philippe, pas de courrier? Qu'est-ce que c'est? Hélène, le faire-part de Madame Tossu et tes Charlie Hebdo, il y en a trois, je ne t'ai pas vu depuis près d'un mois. Philippe, mais tu as déclaré à la police? Hélène, mais pas tout de suite, je suis d'abord allée au service du personnel de l'usine. Philippe, ils t'ont dit, Hélène, que tu es restée en tout 3 semaines inscrite à leurs effectifs. Je vais te faire une tasse de café. Philippe. Oui. Et toi, ça va? Hélène. Comme tu vois. Hélène. Philippe. Je te rapporte une partie de l'argent. Hélène. J'ai été à son enterrement. Philippe. Personne n'est passé ici. Hélène. Tes copains? Philippe. J'ai froid. Hélène. Enroule-toi dans cette couverture. Je vais te chercher des chaussettes de laine. Philippe. Ça, c'est nouveau. Hélène, pour notre départ, elles nous ont offert un pot à Liliane, Isabelle et moi, les collègues du service. Elles m'ont fait cadeau de cette lampe de chevet articulée. Philippe, elles savaient que tu aimes les relis? Hélène, oui. Philippe, maintenant tu es libre. Hélène, je pourrais m'occuper de toi tant que tu es ici. Philippe, si je reste ici, ils viendront me cueillir. Hélène, ils sont déjà venus plusieurs fois. J'imagine qu'ils surveillent la maison. Philippe, ils ne t'ont pas embêté? Hélène, ils m'ont emmené déposer au commissariat. Ils ont été plutôt attentionnés. Ils ont quand même fouillé l'appartement. Ils ont lu toutes les lettres que je gardais. Ils ont éventré ton matelas, ton sommier. Philippe, qu'est-ce qu'ils ont dit? Hélène, casse de plusieurs pharmacies et que 3 membres de votre bande sont déjà arrêtés. Philippe, et puis? Hélène, vol avec effraction, usage et trafic de stupéfiants. Philippe, des mots qui font mal, hein? Sonnerie de la porte. Hélène. Déjà? Philippe, tu vas pouvoir te racheter une voiture. Hélène, tu crois? Philippe, ça te sera quand même plus commode. Sonnerie et coup à la porte. Hélène, quelle marque tu me conseilles? Philippe, la nouvelle R5, tu sais? Hélène, avec protection latérale de bas de caisse. Philippe, je voulais te revoir, tu sais, je savais qu'il viendrait. Cous à la porte, Hélène. Ne t'en fais pas pour moi. Philippe, ni toi pour moi. Hélène, on les fait encore un peu attendre, hein? Philippe, ouais, un petit moment. Hélène, je te mets un disque. Noir.
Eh bien, après cette belle lecture dont tout le monde vous remercie, je voudrais revenir un peu en arrière dans le temps par rapport à 79-79. Mais on reviendra à Dissident, il va sans dire, dont il faut ajouter qu'il fait partie d'un sorte de diptyque de théâtre de chambre. C'est le surtitre que Michel Vinaver a donné à Dissident, il va sans dire, à une autre pièce qui s'intitule « Nina, cette autre chose ». Une écriture effectivement un peu particulière, peut-être par rapport au reste de l'œuvre, mais on en parlera plus tard. Je voulais revenir en arrière à la naissance de l'écrivain Michel Vinaver, parce que l'Association pour une maison de la littérature à Genève est convaincue d'avoir invité non seulement un homme de théâtre, mais un écrivain. Mais avec aussitôt la question de savoir ce qu'est un écrivain, évidemment, et ce qu'est peut-être le rapport à la littérature particulier que vous amenez avec votre pratique. Et je voulais vous demander pour commencer, justement, comment les choses s'étaient implantées à partir du moment où vous avez décidé d'y consacrer votre vie, ce que vous avez fait, si j'ai bien compris, c'était très, très tôt, hein, dans votre vie, et comment l'entrée en écriture, je dirais, s'est faite, par rapport, j'imagine, aussi à vos lectures, enfin, à tout le panorama littéraire que vous avez eu aux États-Unis, ou peut-être déjà auparavant, avant d'y partir. C'est un rapport aussi, je le sais, à la poésie, T.S. Eliot, dont vous avez traduit un texte de Wasteland a compté pour beaucoup.
De Eliot, oui.
Voilà, d'Eliot. Ça, tout le monde, tous ceux qui ont ouvert un livre vous concernant le savent, mais on ne sait pas toujours pourquoi ça vous parlait autant. Voilà. Donc, je vous donne la parole sur ce premier sujet général, mais en même temps, je crois qu'il nous amène au cœur tout de suite de votre rapport à la langue, à la littérature.
Non, j'ai toujours... toujours été à penser à l'écriture comme étant ma vocation dès l'âge de, je sais pas, 7, 8, 9 ans. Hein. Mais je savais aussi que ça ne devait pas être ma seule occupation et que je ne devais pas dépendre de l'écriture pour gagner ma vie. Il fallait que j'aie un métier totalement différent, aussi différent que possible. J'ai des incapacités, je ne suis pas un très bon manuel. J'aurais souhaité un métier manuel pour que ce soit aussi éloigné que possible. Mais là, mes dons n'étaient pas suffisants. Alors finalement, j'ai mis une petite annonce dans un journal et c'est comme ça que j'ai abouti dans cette entreprise qui s'appelle Gillette, sans avoir de compétences particulières, même aucune d'ailleurs. Mais entre-temps, j'avais déjà publié deux romans chez Gallimard, effectivement sous la houlette de Camus, que j'avais connu. J'étais étudiant à ce moment-là aux États-Unis et quand j'ai su qu'il était de passage, mais à New York, j'ai pris le train et j'ai en quelque sorte forcé sa porte. J'étais fou de l'étranger. Bon, l'étranger pour moi était un livre absolument miraculeux et avec je dirais l'inconscience du garçon que j'étais à l'âge de 17-18 ans. Ouais, c'est ça. Bon, j'ai pu le rencontrer et à partir de là, gagner en fait suffisamment d'estime de sa part pour qu'il m'introduise dans la maison Gallimard avec un roman qui s'appelait L'Atome et qui était très peu dans le sillage de l'écriture de Camus. C'est un hommage que je lui rends, le fait qu'il a laissé entrer dans cette maison où il était lecteur lui-même et membre du comité de lecture, il a fait entrer un auteur qui n'était pas un disciple du tout. Dans cette université américaine où j'avais passé un an à peu près, il fallait que je choisisse un sujet de mémoire et j'avais décidé de travailler sur l'écriture de Kafka. Et au fur et à mesure que j'avançais dans ce travail, je m'apercevais que c'était pas possible. Je ne pouvais pas. J'ai buté là, ça m'est arrivé plusieurs fois dans la vie, sur une incapacité radicale. Je ne pouvais pas écrire sur l'écriture de Kafka. Et quand j'ai dit ça au professeur qui était responsable de ce programme, il m'a dit « Oui, ben, j'ai lu une nouvelle de vous dans le magazine, dans le magazine étudiant de la fac. » Ça me paraissait bien, écrivez quelques autres nouvelles et ça fera office de mémoire. Et ça a été mon entrée, en fait, dans la littérature, cette invitation par ce prof américain de dire, bon, bah, comme ça, on trouvera une solution. Et j'ai écrit quelques nouvelles qui ont été le tremplin, on peut dire, vocation, c'est dans les mois qui ont suivi que j'ai écrit mon premier roman.
À propos de Camus, alors justement, j'y reste une minute. Il y a des férus de littérature ici, donc je peux poser la question. Vous aimiez, vous venez de le rappeler, énormément l'étranger, mais beaucoup moins La Chute et La Peste. C'est intéressant, ça. Vous pouvez nous dire pourquoi ?
Mais La Chute et La Peste sont venus après. Moi, je connaissais l'étranger, le mythe de Sisyphe, Caligula, et j'aimais tout ce que je connaissais de Camus à l'époque. Il est vrai que, avec la parution de La Peste et de La Chute, j'ai eu, une déception qui tenait à une chose très simple, c'est que il me semblait que Camus s'était constitué comme étant responsable de son écriture, responsable de ce qu'était le contenu et le sens de ses œuvres. Et moi, j'étais convaincu d'une chose, il fallait qui était que l'écrivain ne doit pas se sentir responsable de ce qu'il écrit. Il y va et puis il peut espérer que ça ira dans le sens, ne serait-ce que politique, de ses idées, etc. Mais la responsabilité est contraire, le sentiment de responsabilité est contraire à l'essor, à l'envol de ce que j'appellerais, disons, l'imaginaire ou le poétique.
Oui. Alors, dans votre écriture ensuite théâtrale, mais peut-être déjà dans les romans, vous pourriez pointer la manière, justement, dont l'objecteur, qui pourtant, dès le titre, hein, semble prendre une position très, très, très forte, vous sentiez pas responsable dans ce sens-là, en tant que celui qui tenait la plume. Enfin, comment ça se ça s'articule? Parce que ça peut paraître paradoxal. Vos textes d'emblée pouvaient être lus comme des textes à thèse, finalement. Pouvaient être lus, je dis bien. Dans quelle mesure on aurait eu tort de les lire comme ça?
L'objecteur n'est pas suivi d'un qualificatif, à savoir de conscience. C'est l'objecteur. Point barre. L'objecteur, c'est celui qui ne peut pas. Et le roman est celui qui est centré sur un personnage, mais pas seulement ce personnage. Il y a aussi une jeune femme. En fait, il y a un couple qui se forme et qui se forme à partir d'une objection radicale, mais qui cette objection est une incapacité à adhérer à ce qui est demandé à l'individu dans la société où on se trouve. Et c'est là que je rejoins, nous pouvons rejoindre l'étranger. L'étranger, moi je restais en fait avec l'objecteur dans le sillage de l'étranger. Je ne crois pas que je m'en rendais compte comme je m'en rends compte aujourd'hui, mais l'étranger c'est celui qui ne peut pas. Il ne peut pas dire qu'il a le chagrin d'avoir de la mort de sa mère, n'est-ce pas ? Et puis ensuite, sur le meurtre qu'il commet, il n'a pas non plus les paroles qu'il faut. Il n'est pas là où on l'attend. Et je pense qu'en écrivant l'objecteur et en écrivant tout ce que j'ai pu écrire depuis, j'en reste à cette idée que pour arriver à faire œuvre, il faut ne pas se programmer, il faut ne pas partir d'un message. On peut avoir des idées, on peut avoir des opinions, certes, comme n'importe qui, comme tout un chacun, mais ce n'est pas à partir de cela que l'œuvre se fabrique. Parce que, en fait, dès lors qu'on part de ces idées, on devient illustratif. Et l'illustration est faible par rapport à ce qui est le jaillissement premier.
D'accord, merci beaucoup. C'est vrai qu'avec l'objecteur, on a le premier d'une longue série de ces personnages que vous appelez parfois des réfractaires. Hein, on trouve souvent ce terme. Et éventuellement des dissidents. Philippe, dissident, il va sans dire, fait aussi partie de cette filiation.
Philippe fait partie de cette filiation Sophie Ozano, qui est au cœur, au centre de la pièce qui se joue actuellement à Genève, Sophie Ozano est un des fait partie aussi de cette chaîne. Oui.
Tout à fait. Oui, bien sûr, il y a des femmes aussi. Oui. Ah oui.
Il y a même, je dirais, plus de femmes que d'hommes dans cette chaîne. Ça tient, je pense, au fait que les hommes sont plus doués pour tourner autour du pot que les femmes. Les hommes savent louvoyer et se raconter des histoires et faire comme si la réalité n'était pas celle-là. Les femmes sont beaucoup plus en adhérence avec le réel.
Oui. Alors, puisqu'on est encore dans Dissident, il va sans dire, on en a encore les oreilles pleines. Peut-être un petit commentaire de la suite du titre. Dissident, il va sans dire. On peut l'entendre de plusieurs façons. La moins intéressante, c'est peut-être évidemment la locution toute faite. Mais est-ce qu'il va sans dire, Philippe? Est-ce qu'il y a des choses qu'il ne dit pas, justement, qu'il ne peut pas dire, peut-être ?
Je crois que le titre m'est venu sans trop de réflexion. Il est arrivé, ce titre, dans ma tête, dans mon imagination. Et il m'a immédiatement paru juste en raison de la polyphonie qu'il contient. Le fait qu'on peut l'entendre de différentes façons. Alors... Peut-être que Philippe Dubé a son idée là-dessus.
Philippe Dubé.
Puisqu'il a joué Philippe, il a dû se poser ces questions, peut-être pas d'ailleurs.
Tu veux répondre tout de suite ? Non, après tout, pourquoi pas, puisqu'on est sur ce sujet. Pierre Dubé, donc, évidemment, qui a joué Philippe.
Pour moi, ce qui est important dans ce que j'entends, c'est que ce rapport que tu as, toi, à l'écriture et au jaillissement est le même pour celui du comédien. C'est-à-dire qu'un comédien qui exprimerait trop d'opinion au départ, je crois que bon, enfin, on sait ce que ça donne. On est bien sûr citoyen aussi, on a aussi bien sûr un avis sur les choses, mais au moment où on est dans l'acte de jouer, on espère faire un silence de ça et laisser naître autre chose, si on arrive. Si justement on arrive à taire peut-être ce trop-plein d'opinions. Donc par rapport au rôle, en plus j'étais extrêmement jeune, je me suis laissé surtout guider par le metteur en scène, disons, au départ. Et par l'écriture qui s'est imposée, alors qu'au départ, je ne vous cacherai pas que au départ, c'est quand même en 79, c'était curieux d'abord comme écriture, quand même pas de ponctuation déjà. Ça paraît aujourd'hui très évident parce qu'on connaît tous l'écriture de Michel et on connaît tous le parcours aussi de ses pièces sur la distance. Mais pour moi, en tout cas, après une année de conservatoire et le rôle qui arrive, ne serait-ce qu'ouvrir la première page et ne pas trouver de ponctuation, c'est déjà au départ une surprise. Et voilà, enfin bon, après on non, peut dire beaucoup de choses, mais on va laisser la parole.
On y reviendra peut-être, mais alors restons sur la question de l'écriture insensiblement. Évidemment, on est passé à l'écriture dramatique, mais c'est, l'adjectif recouvre beaucoup de choses, parce que, encore une fois, est-ce qu'il n'y a pas déjà de l'écriture dramatique dans l'objecteur et dans l'atome, déjà aussi ? Comment vous nous rappelez peut-être comment vous êtes passé de l'un à l'autre ? Il y a eu quelques raisons factuelles peut-être, mais je pense que profondément, vous avez un rapport évidemment à l'écriture, à la parole. Et ce serait intéressant que vous nous parliez de ça. Et on rejoindra effectivement l'événement, disons, de la profération. C'est pour ça que je parlais d'une littérature qui va chercher un peu plus loin que la feuille de papier tachée d'un peu d'encre. Une littérature, évidemment, qui est parole, et on l'a entendu tout à l'heure avec vous. On a eu un moment, je pense, de théâtre, alors même, effectivement, que tout était dans votre voix, ou en tout cas, l'essentiel était dans votre voix. Et un peu d'image, peut-être, mais on pourra en discuter. Alors, ce passage, comme ça, de l'écriture estampillée romanesque à un beau jour, une écriture qui devient estampillée théâtre.
Oui, il y a eu une circonstance, on peut parler d'un hasard, où je me suis trouvé, ayant déjà publié les deux romans dont j'ai parlé, je me suis trouvé en poste dans l'entreprise Gillette, là où se tenait un stage d'art dramatique amateur à Annecy. Et pour moi, il y a eu une rencontre avec le théâtre au cours de ce stage auquel je n'ai pas participé directement. Mais je me suis mêlé au travail, ça m'a intéressé. Et celui qui dirigeait ce stage, Gabriel Monet, m'a commandé une pièce pour le stage qui devait avoir lieu 2 années après. Il fallait toujours un délai de 2 ans entre la programmation et la réalisation. Je me suis donc trouvé devant une commande, un peu effaré par cette commande, parce que le théâtre, j'avais jamais pensé du tout y toucher en tant qu'écrivain. Et j'ai écrit, dans la foulée de cette commande, Les Coréens, aujourd'hui ou Les Coréens, pour être exact, le titre était double, Aujourd'hui ou Les Coréens.
1955.
Hein, oui, en 1955. Et en ayant écrit cette pièce, ou même peut-être en écrivant cette pièce, j'ai su que j'avais trouvé mon lieu d'écriture. Pas parce que j'aimais le théâtre, mais parce que j'aimais le fait de ne pas avoir à rédiger le tissu conjonctif entre les propos tenus. Essentiellement, j'étais en permission de toute narration. J'étais, voilà, on me permettait, par cette écriture-là, de ne pas dire « et il se leva, il prit son verre, il le jeta contre le mur, etc. etc. » voilà, alors, au fond, ce que j'ai découvert, c'est que j'aimais l'oralité, j'aimais écrire la parole, les voix, et que tout soit dit par des échanges de paroles. Quand je dis des échanges, ce n'est pas nécessairement des échanges. Ce sont des paroles qui ne sont pas nécessairement échangées, mais qui peuvent se trouver en choc les unes, en entrechoc les unes contre les autres, et ça fait des étincelles de sens, des étincelles d'émotion. Mais voilà, je me suis trouvé dans ce privilège pour moi, en tant qu'écrivain, de ne pas avoir à faire de narration. Je ne peux pas dire que je ne savais pas faire de la narration, mais rétrospectivement, je me suis aperçu que même dans mes deux premiers romans, il y avait relativement peu de ce tissu conjonctif. Et pour citer celui dont Eric parlait, L'objecteur, eh bien, j'ai pu faire une adaptation théâtrale de ce roman faisant finalement assez peu de modifications. Quelques didascalies qui remplacent la narration, et puis finalement, le roman est presque entièrement dans la pièce.
Merci. Alors, ce qui vous parle, si j'ose utiliser ce verbe, dans la parole, c'est qu'on la trouve à l'état brut, peut-être vous allez préciser cet adjectif, on la trouve à l'état brut dans la réalité. Alors qu'il se leva et jeta un verre contre le mur, ça n'est pas tel quel dans la réalité.
Oui, mon matériau, c'est l'indifférencié de l'expérience commune, c'est vous avez dit le tout venant. Effectivement, j'ai besoin de partir de ce qui n'a pas de sens et qui n'a pas de forme, c'est-à-dire en fait une espèce de moraine existentielle, hein, des blocs qui ne sont pas constitués dans une forme, pour prendre une métaphore architecturale, ou qui a à voir avec la nature. Pour prendre une autre comparaison, je dirais que quand j'ai découvert le mot, tout de suite, ça m'a parlé. C'est un esthéticien, un philosophe esthéticien, Henri Maldinet, qui parlait de l'apeiron, L'apeiron, qui, dans les textes pré-socratiques, renvoie à ce qui est avant la création, ce qui n'est pas encore formé, qui est le désordonné, ce qui n'a pas encore trouvé son rythme. Alors je prononce le mot rythme parce que je crois que le rythme est pour moi absolument essentiel dans l'écriture, mais je ne sais pas ce que c'est. Je sais qu'il faut que j'arrive dans l'écriture à quelque chose qui est rythmé, et rythmé, le même Henri Maldinet, que j'ai entendu parler de ce sujet au cours d'une rencontre à l'abbaye de Sénanque, définissait le rythme comme étant ce qui est contraire à l'attente. Contraire à l'attente, ce qui déjoue toute attente. Et il faisait le contraste entre le rythme et la cadence. La cadence étant ce qui tombe de façon régulière, ce qui se répète à l'identique. Voilà. Et alors, lui parlait, par exemple, de Cézanne dans sa peinture, de Ponge dans sa poésie, à partir de ce concept de rythme qui échappe à une définition acceptable. Pour moi, ça a parlé, ça, parce que j'ai su que dans mon travail, je ne savais pas ce que je cherchais, mais là, j'ai compris que ce que je cherche, c'est le rythme. Et je ne sais pas si la lecture, les deux lectures auxquelles vous avez assisté, ont pu vous donner une impression de texte dans un certain rythme. Mais pour moi, je sais que écrivant, à certains moments, je me dis, et en relisant d'ailleurs, plutôt en relisant, je me dis non, là, ça ne va pas, il n'y a pas, il n'y a pas. Et je reprends et je mets ça en machine, comme je dis, enfin, j'usine le texte jusqu'à ce que le rythme advienne. Je me souviens que pour Dissident, il va sans dire, je n'ai pas eu à le remettre en usine, que c'est venu tel que je l'ai lu d'un seul coup, en deux jours. La pièce a été écrite en deux jours, alors que la pièce qu'a mis en scène Anne-Marie Lazzarini, ici présente, ça a été notre premier travail ensemble, les travaux et les jours. Il y a eu un très long travail d'usinage avant que j'arrive à ce que se cristallise justement voilà, cette chose que j'appelle le rythme.
Alors on pourrait vous suivre longtemps sur la question de la musique ou du rythme, parce qu'il y a peut-être un certain travail sur la mélodie. Lorsque vous avez travaillé la première fois la mise en scène de l'Ordinaire, alors vous pouvez nous le dire si dans la version de la Comédie française de toute récente, vous avez travaillé aussi dans ce sens-là, je pense, pour l'avoir vu. Vous insistiez beaucoup dans le travail avec les comédiens sur cette profération, oui, rythmée et peut-être un peu mélodique aussi, qui les déroutait un tout petit peu, habitués peut-être qu'ils étaient à psychologiser davantage, par exemple, avec une des autres tendances. L'Ordinaire est une pièce qui met en scène, pour dire rapidement, des survivants d'un crash d'avion dans les Andes. Hein. Membres de la direction de la société Houses qui venait vendre des maisons préfabriquées au Chili, c'est ça,
hein ? C'est ça.
Voilà. Alors, dans ce travail, lorsque vous avez fait ce travail avec des comédiens, parce que là, on passe du texte à une profération réelle, quand vous travaillez le rythme, c'est un rythme que vous entendez dans votre tête ou vous le passez au gueuloir vous-même ? Non, vous l'entendez dans votre tête, c'est quand même autre chose lorsque, précisément, il y a une polyphonie effective, prise en charge par des comédiens. Et vous avez été à la charnière, en tout cas, vous avez décidé finalement de l'être.
Je suis parti d'une expérience d'auteur ayant été mis en scène par un assez grand nombre de metteurs en scène différents et ayant connu des résultats, enfin, mes pièces ayant connu des sorts très différents, allant du meilleur au pire ou du pire au meilleur. À partir de l'accumulation de ce que j'ai vécu dans ces différentes expériences, ce qui m'est apparu le plus fortement, c'est que il faut tomber dans la représentation par les comédiens sur le rythme qui préside à l'écriture même. Donc, si j'ai accepté la proposition de faire cette mise en scène à la Comédie française, c'était à titre de vérification. Peut-être que je me trompais, mais je voulais aller jusqu'au bout de cette question, de ce questionnement sur comment saisir ce texte et comment le faire passer. Ben, c'est très simple, en fait. Dès lors que le comédien se pose des questions sur pourquoi il dit telle chose à tel moment, ça s'aplatit. On n'y comprend plus rien. D'ailleurs, ce que Pierre Dubé a dit, je le reprends à mon compte, hein, si on psychologise, tout s'aplatit et rien n'est compréhensible. La compréhension, en fait, l'accession au sens passe par la matérialité d'un rythme dans l'énonciation. Alors, à partir de là, il peut y avoir des variantes, bien sûr. Il peut y avoir des différentes façons de faire, mais il y a surtout beaucoup de façons qui font que le texte s'aplatit et disparaît. Alors, je suis parti de cette conviction-là, et avec les comédiens de la Comédie française, je leur ai dit d'emblée, on va travailler comme ça. Je leur ai fait une lecture à une voix, comme vous en avez entendu aujourd'hui, de la pièce. Et puis, morceau par morceau, j'ai repris la lecture, ce qui leur paraissait aux uns ou aux autres de face comme assez, assez exotique pour eux. Ils n'avaient pas l'habitude de ça. Ils avaient l'habitude, eux, d'être à l'origine même de comment on dit un texte. Et je leur ai dit non, ça ne marchera pas comme ça. Il y a eu beaucoup de remous, beaucoup de complexes, de choses complexes qui se sont passées dans la troupe, etc. Mais en définitive, ils ont été complètement acquis à cette expérience parce qu'ils ont réalisé peu à peu que partant de cette proposition rythmique, eh bien, ils avaient la plus grande liberté en définitive. Et ils ont, je peux dire, vécu une expérience heureuse dans cette affaire-là. Et de mon côté, je pense qu'on est arrivé à peu près à ce que je souhaitais.
Merci. Je vous ai suivi sur la musique parce que c'est fascinant ce passage à la profération, à la phonation hein, qu'implique la représentation théâtrale. Mais je voudrais revenir un peu en arrière d'une question sur le tout venant de la parole que nous rencontrons dans la réalité. D'abord, si je dis tout venant, je crois l'avoir lu quelque part chez vous, hein, oui. Vous n'avez pas inventé ça, le tout venant du langage. Ce qui est intéressant dans votre travail, c'est que ce tout venant, peut-être le tout venant entendu dans la rue, mais ça peut être le tout venant de ce qu'on trouve dans les journaux, ça peut être, enfin, vraiment, le texte se niche partout. Et vous allez le traquer dans une recherche quotidienne, en particulier dans la presse. Et c'est une passerelle, évidemment, lancée vers Portrait d'une femme. Portrait d'une femme est né de la lecture du Monde. Et de coups de ciseaux dans le journal en question. Je m'interroge justement sur la variété de ce tout venant, des supports que vous convoquez pour en faire œuvre.
Oui, je crois qu'il faut tout de suite dire qu'il y a un paradoxe qui est central pour moi entre le tout venant, que j'appelle aussi l'indistinct, ce qui est de l'ordre de l'indistinct ou de la banalité, c'est-à-dire de ce qui est à la crête de l'inintéressant, de ce qui est ressassé, tout ça. Donc le quotidien informe, et ça c'est le matériau de base. Et donc je parle d'un paradoxe entre cela, ce pôle-là, et le pôle de l'abstraction. Le pôle de l'abstraction, c'est celui où la musique, puisque vous parlez de musique, où moi je parlais de rythme, mais en fait, je veux bien parler de musique. Il faut que le texte ait une existence musicale se rapprochant de celle des compositions. Enfin, moi, c'est surtout les compositions polyphoniques qui me nourrissent, c'est-à-dire en fait, Bach et les prédécesseurs de Bach et les contemporains de Bach, la musique qui est faite de mélodies qui se chevauchent et qui coexistent les unes avec les autres. Voilà. Donc, d'arriver en fait à ce que vous prenez un peu au hasard un fragment, disons, d'une de mes pièces, ça peut paraître sorti d'un magnétophone qui aurait été mis sous une table, mais il faut aussi que ça ait les caractéristiques d'une fugue de Bach. Alors comment est-ce que ça se manigance ? Je n'en sais rien, mais il faut les deux. Il faut les deux, absolument.
Bien, merci beaucoup. Je pose une dernière question avant de tendre le micro à la salle, parce qu'il y a certainement des questions qui seront nés déjà à vous entendre à la lecture, peut-être encore dans le cours du débat. Ma dernière question, c'est si on regarde l'ensemble de l'œuvre, on est toujours un peu tenté d'essayer de découvrir des périodes. Et ce que je trouve fascinant, c'est qu'évidemment, on peut délimiter peut-être des périodes d'un point de vue formel. Il y a des places plus ou moins montées, plus ou moins polyphoniques. Enfin bon, on pourrait faire une petite démonstration là-dessus. Mais plus ça avance, plus je me dis que la périodicité, elle est largement dictée finalement par l'actualité aussi, votre actualité. Et on le voit, vous aviez décidé de ne plus écrire pour le théâtre. Survient malheureusement le 11 septembre et hop, vous vous y remettez. Et on a le sentiment qu'à plusieurs étapes finalement de votre œuvre, ce qui a pu évidemment ensuite mener à des travaux qui étaient formellement intéressants, en fait, était né d'une nécessité actuelle et de thèmes sociaux, de thèmes professionnels qui vous tenaient à cœur. Est-ce que je me trompe sur ce qui meut vraiment l'écriture et ce qui peut-être dessine des périodes, finalement? Mais souvent, les périodes chez un artiste sont plutôt des périodes dessinées par un aspect formel, alors que là, ça se mêle profondément, me semble-t-il.
Mais c'est vrai que j'aime l'actualité. J'aime me sentir, en écrivant, dans l'immédiateté de ce qui se passe, d'être sans perspective, de ne pas savoir, par exemple, bon, j'ai écrit Iphigénie Hôtel qui met en scène, on peut dire, les événements d'Alger qui ont conduit à l'arrivée au pouvoir du général de Gaulle, mais je ne savais pas encore. Non, pardon, au moment où j'ai écrit Iphigénie Hôtel, de Gaulle venait d'accéder au pouvoir, mais ce que je viens de dire vaut pour la pièce précédente, Les Huissiers, où j'ai écrit Les Huissiers. C'est l'agonie de la 4e République, où je me suis énormément servi de coupures de journaux. Je découpais les journaux comme un fou, je les collais, j'ai rempli des cahiers de coupures de presse, pas seulement d'ailleurs sur la politique, pas seulement sur les débats ou sur les opérations militaires en Algérie, mais sur la mode des cheveux courts contre les cheveux longs, enfin bien d'autres sujets, ce qu'on n'appelait pas encore les people à l'époque et ainsi de suite. Et tout ça nourrissait comme une espèce de pâte. Cette pâte, c'était mon matériau. Et oui, j'aime l'actualité, j'aime être là-dedans et j'aime ne pas savoir ce qui va se passer après. Quand j'écris, je suis myope, je ne sais pas, je n'ai pas la perspective. Et cette myopie est une source de jouissance et d'acuité dans le travail.
Alors, vous avez eu le temps de préparer vos questions? Largement, pas trop de temps, j'espère. Alors, le micro peut-être, oui, s'il peut se balader un peu. Qui le souhaite?
Monsieur. Merci. Ouais. Par rapport à la musicalité dont vous avez parlé, pour la pièce 11 septembre, où effectivement vous parlez d'oratorio, d'air, etc., dans quelle mesure, comment vous interprétez la musicalité de cette pièce? Et puis, sauf erreur, vous l'avez montée vous-même, je crois, en septembre, ou bien je me trompe?
Je ne l'ai pas mis en scène, non. Non, mais j'ai travaillé un peu avec Cantarella, qui l'a mis en scène aux États-Unis. Cantarella a fait une mise en scène très intéressante avec les élèves et anciens élèves d'une école qui s'appelle Cal Arts dans les faubourgs de Los Angeles et qui a été alors j'ai fait deux fois le voyage pour travailler avec lui et les élèves au début puis ensuite à la fin de ce travail. Alors sur la musicalité, en partant dans ce projet d'écriture, je me suis calé sur la structure des cantates de Bach qui comprennent pour l'essentiel des airs, des récitatifs et des parties chorales. Du point de vue de la structure, la pièce est constituée par une alternance entre ces trois formes. Notamment, le journaliste, le ou la, d'ailleurs, suivant les cas, c'est dit ou monté avec une femme ou avec un homme. Pour le journaliste, il est un petit peu l'avatar, on peut dire, de l'évangéliste dans les passions de Bach. Mais cette alternance entre les parties chorales qui, dans la lecture que vous avez entendue, sont, on peut dire, figurées par l'unisson entre les deux lecteurs, sont en contraste avec les parties qui sont « moi, je m'appelle une telle ou un tel, et voilà qui je suis, et voilà ce qui m'est arrivé. »
Est-ce que, je m'excuse pour préciser, que vous parlez de cette musicalité, c'est au sens métaphorique ou dans cette mise en scène, est-ce que réellement c'était chanté? Est-ce qu'il y avait des éléments musicaux
Non, il n'y avait rien de chanté. Non. Ça a été... même les parties chorales, tout était au niveau de la parole seulement, sans musique. La toute première idée, en fait, de 11 septembre, ça a été d'écrire un livret pour être... faire partie d'une œuvre mixte entre un musicien, entre un compositeur et l'écrivain que j'étais. C'est un projet qui a avorté et finalement ce texte a pris son autonomie par rapport à ce qui avait été l'idée de départ.
Merci. J'aurais deux questions à vous poser par rapport au 11 septembre. La première, l'importance des noms est fabuleuse. Est-ce que c'est
des noms?
Et est-ce que ce sont les vrais noms?
Ce sont les vrais noms.
Et ça,
vous savez, ce sont les vrais noms là où il y a des noms. Parce que, par exemple, le dernier monologue est entièrement inventé, n'est-ce pas? Il n'y a pas... Mais pour la plupart, oui, ce sont les vrais noms tels que je les ai trouvés dans les comptes rendus des journaux.
Et il me semblait justement, c'est là qu'on comprend ce que votre travail sur le rythme. Est-ce que je me trompe? Parce que j'ai l'impression la façon comme ils apparaissent c'est une fonction rythmique que vous avez saisi d'une façon qui est extrêmement frappante et vraiment merveilleuse. Et c'est là l'autre question. Comment vous avez vécu l'expérience de la traduction vers le français?
Alors, pour ce qui est des noms, je suis très sensible à ce que vous dites. Je pense que les noms font partie du texte absolument et que... même quand la pièce est mise en scène, il faut que les personnages se nomment avant leur réplique. C'est ce qui a été fait notamment aux États-Unis. Et dès lors qu'il n'y a, dans les tentatives qui ont été faites sans les noms, eh bien, quelque chose de très important manque. Ouais. Alors, votre deuxième question... attendez, j'essaie de me souvenir.
Comment vous avez vécu le fait de traduire,
oui, de traduire
ces textes en français? Alors, c'est par rapport à la représentation et par rapport à ce que vous avez dit.
En fait, comme je suis beaucoup parti d'articles dans la presse américaine, j'ai écrit la pièce en américain et j'ai fait la traduction française. À la suite de cela, l'anecdote mérite peut-être d'être rapporté, d'autant que j'ai un témoin en la personne d'Anne-Marie Lazzarini qui m'avait invité à faire une lecture d'un texte à mon choix dans son théâtre à Paris. Et j'avais proposé de lire à la renverse, si je me souviens bien. Et elle a annoncé dans le... dans les publications du théâtre que j'allais lire à la renverse. Or, entre-temps, ayant écrit 11 septembre 2001, je me suis dit, mais non, il faut que je lise la pièce que je viens d'écrire. Je lui ai dit, ben voilà ce que je voudrais faire. Anne-Marie m'a dit, oui, pas de problème, on annoncera en dernière minute un changement dans le texte, mais ce n'est pas un problème. La seule chose que je n'avais pas réalisée, c'est que le texte était en américain. Et que je, pour en faire la lecture dans son théâtre, ça n'allait pas. Ce qui fait que dans les 2 ou 3 jours qui ont précédé la lecture, j'ai fait la traduction française.
Mais ça vous n'a pas paru comme justement une introduction d'un élément de représentation que vous n'aimez pas introduire dans votre écriture, quand vous parlez de l'usinage. Là, il y a quand même un décalage, un transfert que vous opérez qui introduit quelque chose qui... Oui, que vous ferez usiner.
Là, j'aimerais bien avoir votre réaction, parce que vous avez vu le résultat quand il y a une lecture bilingue. Oui. Je sais que, pour ma part, ça me plaît beaucoup qu'il y ait cette ondulation entre les deux langues.
C'est extraordinaire. Justement, mais on sent aussi la différence. Et ce que je m'y intéressais de voir, c'est comment est-ce que vous avez vécu cette ancienne. Mais je trouvais extraordinaire ce cœur, en fait. C'est devenu un cœur de deux langues. Mais c'est la différence qui est tellement frappante, je trouve.
Alors, évidemment, en tant que traducteur, je me suis permis des libertés qu'un autre traducteur aurait sans doute eu scrupule à faire. Oui.
Mais c'est extraordinaire. J'étais très impressionnée.
Comme le micro traîne, j'en profite. J'ai toujours lu vos textes comme de la poésie. C'est le mot qui n'a pas encore été prononcé. Et ce qui me bouleverse quand on vous entend lire, c'est justement que reste le texte avec votre voix, mais le texte est là et c'est affreux par rapport à vous tous qui vous occupez de théâtre, mais je trouve que le texte résiste plus et que le poème émerge. Et la rythmicité est absolument fascinante. J'ai trouvé ça d'une force poétique que je pressentais, mais qui m'a été révélée en vous écoutant.
Je n'ai rien à dire à cela.
Je vous auriez pu dire que le texte qui résiste, ça doit vous plaire. Parce que... voilà.
Tout ce que vous venez de dire me plaît, évidemment, oui. Mais je veux dire...
Michel a dit quelque part, ça va tout à fait dans le même sens, que le texte devait rester non soluble à la représentation.
Ce n'est pas moi.
La représentation, comme il le fait au théâtre, bien souvent. Résister donc.
Oui, la remarque a été faite par Vitez. Je l'ai ensuite adoptée, on peut dire. Mais c'est Vitez qui m'a dit un jour, tes textes m'intéressent parce qu'ils sont insolubles. Et je crois que cette insolubilité, je ne sais pas si le mot existe, je ne crois pas, mais en tout cas ce caractère insoluble est la marque même du poétique. Moi, je ne sais pas la différence en fait entre le poétique et ce qui ne l'est pas, mais je n'ai pas l'impression que je suis dans un champ qui est autre que poétique, effectivement.
Merci beaucoup. C'est le mot, effectivement, qui englobe tout ça et qui peut-être sera le mot de la fin, à moins que quelqu'un réclame encore le micro. Voilà. Sylviane Dupuis.
Il y a une petite phrase qui revient à la fois dans Portrait d'une femme et dans la pièce que vous venez de nous lire et qui est « Tu n'es pas à ma place ». Donc, quelqu'un dit au personnage « Si j'étais à votre place ou si j'étais à ta place », et il dit « Mais tu n'es pas à ma place ». Et il me semblait qu'il y avait une petite phrase clé de votre théâtre là-dedans, dans l'idée que chaque être est tellement unique que personne ne peut se mettre à sa place. Est-ce que c'est juste ?
C'est bien intéressant que vous ayez relevé cette coïncidence dont je n'avais pas conscience. Mais je pense que votre remarque est tout à fait juste, oui.
Alors, je ne sais pas si ma remarque sera juste. Moi, j'ai remarqué surtout votre mot de ce soir qui est peut-être sécable d'une façon qui vous est un peu inattendue. J'étais très surprise que vous parliez de mort-haine à propos justement du contexte du 11 septembre. Je trouvais ça particulièrement intéressant. Ça vous évoque quelque chose, peut-être, dans votre poésie du quotidien.
Je crois que c'est la première fois que me vient à la bouche le mot mort-haine, en fait, quand je parle de mon travail. Là encore, ce sont ce que j'appelle des rugosités, en fait. Hein, des rugosités dans l'expérience de la parole, où un mot peut vous venir à la bouche qu'on n'a jamais utilisé avant, en tout cas dans ce contexte, et qui est en relation avec l'immédiate expérience qu'on vient de vivre.
Moi, je voudrais juste dire quelque chose par rapport au travail du théâtre, justement, parce que, monsieur, vous évoquiez le fait de la résistance du texte, et comme il y avait pas mal de gens de théâtre, ça pouvait peut-être être difficile à entendre. Je crois que c'est le contraire, et je crois que, sans entrer dans le détail, parce qu'on en aurait pour un séminaire d'une semaine, ce qui me semble important de dire ce soir, pour moi, en tout cas, c'est comment Michel Vinaver, à travers son œuvre et sur les années, a fait évoluer le travail du comédien, le travail du metteur en scène, le travail du scénographe, en tout cas dans le théâtre, d'abord dans le théâtre français. Et qu'il y a aussi toute une nouvelle génération des metteurs en scène jeunes. Parce que moi, j'ai connu l'époque, en étant moi très jeune, mais de metteurs en scène plus anciens qui se cassaient un peu la tête à savoir comment monter Vinaver. Pour eux, souvent, c'était des gens qui avaient été extrêmement marqués par Brecht et qui retrouvaient une partie de Brecht, bien évidemment, dans l'implication sociale et politique, mais qui ne retrouvaient pas du tout un tout autre aspect dont Michel a parlé, notamment sur la forme et sur le rythme, et que je crois qu'une jeune génération, par contre, a saisi immédiatement. Et c'est frappant de voir à quel point son théâtre est joué à l'étranger, beaucoup aussi.
Je voudrais ajouter à ce que Pierre vient de dire que il y a de plus en plus de représentations de théâtre amateur de mes pièces. Je viens de voir, par exemple, dans les dix jours, deux représentations amateurs de la même pièce, l'émission de télévision, l'une à Marseille, l'autre à Paris, avec des moyens économiques très réduits, avec des talents de comédiens très inégaux, dans les deux cas d'ailleurs avec, pour certains rôles, des talents remarquables. Mais cette inégalité dans les talents, cette indigence, on peut dire, financière, qui fait que on ne fait pas tout ce qu'on veut, loin de là, tout cela n'a pas empêché ces représentations d'être plus, je dirais, plus justes par rapport à ces pièces que celles dont j'ai le souvenir du temps où elles ont été créées par de grands metteurs en scène. Et je pense que donc il y a une évolution. Il y a une évolution qui n'est pas simplement du fait des individus, mais qui est plus large, que je ne sais pas trop comment l'expliquer, mais qui fait que ce qui était difficile à saisir dans cette écriture, ou en tout cas difficile à... On se cassait la tête beaucoup pour savoir comment on le fait. Et aujourd'hui, ça coule de source bien davantage. Alors, il y a une explication qui m'est donnée par certains qui est « Ah oui, mais maintenant, on est dans le zapping, donc on passe beaucoup plus facilement. On est beaucoup moins dans la difficulté de ce qui est discontinu et fragmentaire. » Je crois que c'est pour une part vrai. Et qu'aujourd'hui, la continuité narrative, l'exigence de la causalité est moindre que ça n'était le cas il y a 10, 20, 30 ans. Mais il y a aussi, je crois, quelque chose qui peut faire penser à, surtout en matière de peinture, je dirais, au temps qu'il faut autant qu'il faut pour qu'un certain langage ou une certaine façon de faire devienne, en quelque sorte, vienne à aller de soi.
Pas d'autres questions. À propos de représentation, j'aurais dû ajouter que Pierre Dubé a non seulement été l'interprète de Dissident, il va sans dire, mais le metteur en scène de l'émission de télévision et du dernier sursaut de Michel Vinavert. Je ne peux que vous encourager évidemment à aller voir la mise en scène d'Anne-Marie Lazzarini à la Comédie de Genève, Portrait d'une femme. Si ça vous permettrait de prolonger cette soirée de manière parfaite, d'assister aussi au brunch le dimanche à partir de 11h, quelque chose comme ça, où vous retrouverez Michel Vinavert. Michel Vinavert, que, en votre nom à tous, je remercie infiniment. Thank you.